מאוד מאוד מושמעי, הוא קשר וישר. J'ai réfléchi totalement à ce qui se
passe. Moi, c'est une de compagnie au personnage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de méprisement, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Le chef de l'État congolais a promulgué le 4 août dernier la loi portant régime des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Ces textes viennent donc de combler une lacune qui a retardé depuis longtemps la mise en valeur effective des ressources en hydrocarbures en affirmant la propriété de l'État sur les hydrocarbures du sous-sol. Certains observateurs estiment que cette affirmation de la propriété de l'État pourrait décourager certains investissements. Une autre opinion pense que l'État devrait aussi renforcer des sanctions en cas de non-observation des dispositions légales et contractuelles par les sociétés pétrolières. Qu'en pensez-vous? Paul Badianyama est à la mise en onde de cette production réalisée par Julie César Bongonda. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lugembo sous la supervision de Lona Moulamba. Vous pouvez participer à ce débat avec vos messages sur notre page Facebook ou bien nous appeler en direct au 081 890 63 15. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous recevons dans ce studio Emery Mbati Bopé, vice-président du groupement national des sociétés pétrolières privées. Alors, Monsieur Emery, bonjour.
Bonjour, Monsieur Julien.
Voilà, d'entrée de jeu, comment avez-vous salué la promulgation de cette loi?
Bon, d'abord, je commence par saluer le nombreux auditeurs de la radio au Capi, la radio de la paix, qui sont nombreux pour suivre cette tranche. Je profite de votre micro pour aussi saluer ceux qui nous suivent à l'INET, partout dans la ville, et aussi ceux qui nous suivent au travers le monde. Oui, je crois que ce document est important, cet outil important de travail qui a été finalement promulgué et qui a été publié dans le journal officiel pour dire que maintenant, nous ne pouvons que être joyeux, contents du fait que c'est un support important qui manquait pour pouvoir bien gérer le secteur aussi important et aussi stratégique qu'est le hydrocarbures.
Alors quelles sont les innovations qu'on peut arrêter donc dans cette loi?
Bon, je voudrais d'abord dire que il y a eu un temps dans l'historique où notre pays était géré dans le cadre de ressources. Il y avait un seul texte, un seul texte qui était en application, qui gérait non pas seulement les hydrocarbures et les mines. Mm-hmm. Ces documents à gérer jusqu'au vers les années, je crois, 2002. Il y a une loi, je crois, la loi 007 2002, du 15 juillet 2002, qui portait sur les codes miniers, qui a été créé. Alors, à ce temps-là, il y a eu une séparation. Une séparation de ces deux domaines, laissant les domaines des hydrocarbures sous l'empire de l'ancienne loi, et qui devenait inadapté au regard de l'évolution même du secteur. Bon, cela a laissé un vide. Alors, pour répondre à ces exigences de l'évolution de ce secteur, je crois que le législateur et le gouvernement, je crois, ils se sont attelés pour commencer déjà à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un document et qui pouvait permettre à ce que l'exploitation, la recherche, pourquoi pas, puisse être bien faite et que cela soit respecté, que l'on respecte aussi la règle de jeu. Je crois que ce document, dans son historique, il a été, on avait commencé par de l'avant-projet, on a discuté, et aujourd'hui, nous avons atteint le point de chute où le document a été finalement promulgué. Alors, quant aux innovations, les innovations sont nombreuses. Je crois que s'il faut citer tout ce qui a été énuméré comme innovation, on prendra plus de temps, mais je pourrais quand même prendre en quelques lignes quelques innovations. Bon. Les innovations, je peux dire que jusqu'à aujourd'hui.
Donc, je souligne, ça c'est le regard d'un investisseur dans les
ouais. Oui, je suis en aval, hein, donc nous pouvons situer des grands secteurs. Dans les hydrocarbures, il y a l'amont pétrolier, il y a l'aval aussi. Mmh. Dans l'amont, c'est là où il y a les recherches, l'exploration et l'exploitation. Et dans ce domaine, nous n'avons pas beaucoup d'opérateurs, ça je peux le dire. Nous n'avons pas beaucoup de privés qui sont réellement... pas tellement intéressés, mais qui se sont impliqués aussi dans cet aspect-là. Mmh. Bien sûr, mais en aval, par contre, nous avons quand même le libéralisme qui a été prôné et qui est vraiment bien observé. Il y a beaucoup de privés qui sont en aval, donc en aval, l'amont, là j'ai parlé de l'explorateur, de la recherche, de la production, mais en aval, là où il y a le libéralisme, il y a le libéralisme qui est appliqué, il y a la distribution, il y a les transports, il y a les stockages. Là, les privés nous sont présents, que ce soit à l'est, que ce soit au sud et que ce soit à l'ouest. Donc, quand vous voyez les stations-service, quand vous voyez les tanks de stockage, ce n'est pas seulement les multinationaux ou les majors, il y a aussi les privés. Voilà. Donc, les innovations, il faut dire que les hydrocarbures, à partir de ces codes, conformément au texte qui a été publié, restent une propriété de l'État. On a renforcé, en fait, les capacités ou l'autorité de l'État, voilà, dans ces codes. C'est-à-dire, vous avez votre bloc pétrolier, vous êtes en train de l'exploiter, vous produisez déjà le brut, ce brut jusqu'au chargement dans les bateaux pour s'être exporté, ça reste encore une propriété de l'État. Donc, si quelque part dans la chaîne, vous n'avez pas respecté...
À ce niveau-là, ça ne va pas décourager la
montagne. Non, ça arrive. Non, comment ça va
décourager? En fait, c'est ça maintenant la problématique.
Non, non, ça veut dire quoi? Ici, on appelle les gens, tous ces investisseurs, d'observer les règles des jeux, de respecter les textes, de respecter les lois du pays dans la matière, dans les secteurs où ils sont en train d'évoluer, où ils sont en train de travailler. Si on vous dit que l'État reste propriétaire, on a renforcé l'autorité de l'État, ça veut dire vous êtes là, vous avez votre bloc pétrolier, d'autant plus que vous avez respecté la procédure, vous avez peur de quoi? Comment ça peut décourager? Parce que là, à ce moment-là, vous êtes obligé d'éviter de passer par des aventuriers ou de passer par des gens qui peuvent vous faire un document qui, dans la chaîne, si on se rend compte que vous n'avez pas respecté, l'État congolais a le droit de dire non, stop, ce brut ici, il n'a pas respecté à tel niveau la fiscalité.
Il n'y a pas un paradoxe entre le libéralisme prôné et la propriété des
États. Non. Il n'y a pas un problème. D'autant plus que ici, on est tout simplement en train d'améliorer d'améliorer les conditions. C'est-à-dire, si dans le temps, les gens ne pouvaient pas être sécurisés, mais là, un investisseur qui vient, il sait qu'il a investi son argent, il a trouvé un bloc pétrolier, il a trouvé les brutes, il a tous ces éléments, il commence à produire. Mais pourquoi ils doivent être découragés? Puisqu'ils seront accompagnés sur toute la chaîne par le pouvoir organisateur, l'État congolais qui va les accompagner. Je crois qu'il y a des raisons pour qu'ils se sentent plus sécurisés. Oui, vous voulez dire qu'ils seront découragés. Là, je parlais de
l'enseignement de l'autorité de l'État dans les sanctions. Il y a l'autorité de l'État marche avec des sanctions à donner à l'endroit de ceux-là qui ne vont pas observer les dispositions légales.
Oui. Ici aussi, il y a
un aspect important. Je suis en train de prendre pêle-mêle. Hein,
je vais prendre des grandes lignes. Oui.
Ici, l'État congolais donne la possibilité au privé. C'est là, maintenant, nous aussi, nous devons, maintenant, à partir de maintenant, ou peut-être bien avant, commencer à nous former, commencer à nous mettre à compétence égale avec ceux qui sont métis, ceux qui sont étrangers, ceux-là qui viennent pour investir de l'étranger. C'est-à-dire, l'État congolais nous donne la possibilité de travailler avec ces investisseurs dans la chaîne, dans, au niveau de la chaîne de production, pour que nous puissions tirer bénéfice dans l'amont, c'est-à-dire dans la chaîne. C'est-à-dire, s'il y a un investisseur ou une grande société, une firme internationale qui vient et qui gagne le marché, il a un bloc pétrolier. Nous, les privés, nous devons, les nationaux, nous devons avoir part. Là, on parle des local content. C'est-à-dire, les locaux, les privés, les nationaux, peuvent avoir une expérience avérée dans le forage, et nous, on privilégie. C'est-à-dire, on doit réellement voir que dans la chaîne, il y a à des niveaux différents des nationaux qui exécutent les travaux pour avoir la production finale ou le produit fini ou le brut. Ça, il y a un accent qui est mis. Donc, on a renforcé, on a donné plus d'importance à des nationaux, donc on appelle les local contacts, qui restent une obligation.
Voilà, est-ce qu'on va peut-être voir ça au niveau de l'économie actuellement? On l'a vu avec les contrats chinois ou encore d'autres opérateurs économiques, les Congolais qui, au fait, ont donné, en tout cas, leur expertise, en ce qu'on peut appeler aussi local contact, mais aujourd'hui, ils favorisent aussi certaines magouilles ou certaines corruptions, mais on verra peut-être par la suite dans cette émission. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous ouvrons ces débats avec vous, Franck, vous êtes à Vienne, Maître Sonville à Lubumbashi et Cyril dans le Bandundu-Ville. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité et aussi à tous les amis avec qui nous allons nous présenter.
Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette thématique, je l'ai dit tantôt, la loi portant régime des hydrocarbures en RDC a été promulguée depuis le 4 août. Alors ce texte vient donc de combler une lacune qui a retardé depuis longtemps la mise en valeur effective des ressources en hydrocarbures en affirmant la propriété de l'État sur les hydrocarbures du sous-sol. Alors votre invité a bien même confirmé cela en disant que cette loi, au nombre des innovations, il y a ce que nous appelons les renforcements de l'autorité de l'État dans les secteurs.
Oui, je l'ai bien suivi. Je lui dis merci pour la clarté, l'objectivité et la pertinence dans sa manière d'expliciter la thématique. Parce que je crois que si nous argumentons comme tout bon compatriote congolais, nous devons les rappeler à nos amis que chaque loi promulguée doit avant tout promouvoir les intérêts suprêmes de la nation, les intérêts du peuple. Donc pour chaque loi promulguée, les retombées positives doivent être senties du côté de la population et de l'aide sociale. Si cette loi vient par exemple apporter quelques innovations pour offrir aux citoyens congolais privés des proportions des investissements dans ce secteur, mais c'est tout ce qu'on a toujours cherché à avoir. Parce que moi, personnellement, je suis à l'étranger. Je dis et je trouve que nous devons toujours attirer les autres à venir investir chez nous. Ça se fait comme ça partout dans le monde. Et aucun État, même les États-Unis, la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Donc, on a toujours besoin des autres pour bien rayonner dans le dynamisme du développement. Mais seulement chez nous, c'est comme si les gens pensent que quand il y a des lois qui donnent aux citoyens congolais des avantages, c'est comme si ce sont des erreurs qu'on fait. Non, je crois que la RDC appartient d'abord aux Congolais. S'il y a des lois qu'on doit mettre en place, ça doit d'abord offrir autant d'avantages aux citoyens congolais, sans pour autant négliger les expatriés. Mais si maintenant nous devons seulement argumenter pour protéger les intérêts des expatriés, les intérêts des investisseurs étrangers au détriment de nos propres citoyens, nous devons quand même nous demander si c'est comme ça que ça se fait aussi ailleurs. Donc si cette loi protège maintenant aussi les intérêts des citoyens congolais, là vraiment nous sommes d'accord et avec le chef d'État, avec le gouvernement, avec le parlement et avec ce que l'invité vient de dire. Mais seulement nous devons aussi rappeler que notre gouvernement doit-il déjà se montrer plus responsable, conséquent et loyal dans sa manière de matérialiser telle décision de telle loi promulguée. Parfois, on nous dit qu'on a promulgué telle loi, offrant des opportunités aux citoyens congolais de telle catégorie, de tout, de telle autre, mais en réalité, c'est encore la loi de la jungle, de la magouille, qu'on tentera toujours de remettre en place d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment bien par rapport à ce que l'invité vient de dire, de placer comme base. Mais encore faut-il que ceux qui sont en place, qui sont appelés à appliquer la teneur de cette loi, se mettent aussi là où on a vraiment besoin de leur patriotisme pour que demain, qu'on ne sente plus, qu'on ne vit plus le contraire de ce qu'on doit maintenant vivre en fonction de ce qui est prescrit dans la loi.
Merci beaucoup, Franck. Pour vous, il ne faudrait pas qu'on observe simplement cette proportion des investissements accordés aux nationaux qu'au niveau des textes. Il va falloir qu'on aille un peu plus loin, c'est-à-dire là où vous tombez dans la deuxième option, lorsque l'opinion pense que l'État devrait aussi renforcer des sanctions en cas de non-observation des dispositions légales et contractuelles par les sociétés pétrolières. Alors, c'est que vous avez peut-être semblé dire également, parce qu'en observant aujourd'hui au niveau de l'économie, c'est vrai, la loi autorise des petits commerces qui devaient être tenus par les nationaux, mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Et c'est là où réside d'ailleurs votre inquiétude. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Nous prenons Maître Sonville qui est à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, M. Gire. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez la parole, Maître Sonville.
Oui, alors. Oui, par rapport à la thématique de M. Gier, moi je dirais que par rapport aussi aux innovations auxquelles notre invité fait allusion, moi j'estime qu'il n'y a pas d'innovation, puisqu'il y a beaucoup de lurettes, le sol et le sous-sol appartient à l'État. Renforcer l'autorité de l'État, c'est-à-dire que l'État était défaillant dans ses prérogatives. Puisque pourquoi je dis ça, M. Gier? Nous avons vécu beaucoup de lois qui ont été promulguées, mais qui ne sont pas d'application. Le problème qui est là, qui réside maintenant, c'est l'applicabilité de cette loi promulguée par le chef de l'État. Puisqu'à titre administratif, M. G, je vous dirais, la loi sportive, elle n'est pas encore d'application, d'applicabilité. Mais elle souffre, elle est en désuétude. Le problème qui est là, c'est quoi, M. G? C'est bien beau de promulguer cette loi. Mais qui sont ceux-là qui vont arracher ces marchés-là? C'est là où réside un autre problème. On peut promulguer une loi pour la promulguer, mais ceux-là qui vont arracher tous ces marchés, ce sont les terrains du pouvoir. Soit ce sont les multinationales qui vont passer par eux pour accueillir ces marchés-là en contrepartie de certaines commissions. C'est à ce niveau-là que nous ne pouvons pas parler le même langage. Moi, je voudrais juger cette applicabilité de cette loi. Je devrais juger à l'œuvre lorsque les investisseurs viendront, puisque l'objectif d'une loi, c'est d'attirer les investisseurs. Aujourd'hui, M. Gilles, prenons aussi l'exemple du secteur minier. Aujourd'hui, on va découvrir un gisement minier au niveau de 17 km de Kassoumos à Kimpe. Mais il faut voir comment est-ce qu'il y a la finance des militaires. Il faut voir comment il y a maintenant tentative d'expropriation de ce secteur-là, de cette place, de ce site-là. Tout ça au détriment de la population. Ça veut dire que dans tout ce qui est promulgué, c'est bien beau. Les parlementaires sont là pour la promulguer. Le président n'a fait que son devoir de promulguer. Mais ceux-là qui seront chargés, les préposés de l'applicabilité de cette loi, est-ce qu'ils sont conscients de la tâche qui les attend? Est-ce qu'ils sont doués de la citoyenneté? Puisque si vraiment on est Congolais, il faut avoir pitié de nos Congolais. On peut promulguer cette loi. Les investisseurs viennent. Ils s'amènent avec les expatriés qui vont travailler à la place même du national.
Oui, Maître Sauville.
Il faut respecter.
Oui, Maître Sauville. Est-ce que vous pensez comme les autres que la propriété de l'État, telle que renforcée dans cette loi, au fait, pourrait décourager certains investissements?
Oui, tout à fait. Lorsque les investisseurs ne se retrouvent pas, Puisque quand on est investisseur, quand on vient investir dans un pays profond, on se surprend aussi des bénéfices. Mais lorsque les investisseurs verront que, en tout cas, du côté des pouvoirs, la plus grande partie, la plus grande part des bénéfices est du côté du pouvoir, les investisseurs ne viendront jamais. Alors, à ce moment-là, il faudrait que l'État congolais puisse être bon. Malheureusement, la loi est déjà promulguée. Comment est-ce qu'on peut amender cela par rapport aux investisseurs? Parce qu'aujourd'hui, monsieur Gilles, 90%, quand même on dit que le chômage est en baisse, mais nous constatons que 80% des Congolais, 70% ne sont pas travailleurs, ce sont des débrouillards. Nous avons besoin de ces lois qui peuvent permettre aux experts de venir et d'utiliser la même œuvre congolaise, afin que les Congolais puissent se réjouir de leur richesse. Ça fera même partie de la justice distributive. Il ne faudrait pas que l'État puisse renforcer son autorité.
Je ne sais pas, Maître Sombril, si vous avez compris de la même manière que moi, lorsque notre invité parlait des local contacts, qu'on peut dire chaque investisseur étranger doit nécessairement avoir dans son projet d'investissement un contact, un point focal, quelqu'un qui est des nationaux, donc pour finalement adorer les conditions pour qu'elle puisse cet investissement soit accepté. Est-ce que cela ne va pas au fait être une occasion aujourd'hui à certains Congolais de pire à tous ces étrangers leur bons offices, et également aussi une façon aussi pour nous des opportunistes d'utiliser ces conditions pour pouvoir s'en servir et puis bon laisser l'occasion à tous ces étrangers de pas respecter les dispositions légales.
C'est ça notre inquiétude, M. Gilles. J'estime que la volonté du gouvernement de promouvoir cette loi, c'est peut-être sécuriser aussi ce secteur-là. Mais par rapport au choix d'usage et d'occasion auquel notre unité fait allusion, ça va ne pas offrir à ceux-là qui tiennent le pouvoir, à ceux-là qui sont préposés dans ce service-là, de se créer des marchés au détriment même de la population. Nous connaissons comment est-ce que ça évolue au niveau de la RDC. Il y aura question de définition, question de clientélisme, et cette loi ne doit pas servir à notre...
Voilà, merci beaucoup, Maître Sombril. Je crois que pour vous, c'est question de passer à la vitesse supérieure. Hein. Il faut penser déjà à l'application de cette loi. C'est bien beau, tout le monde a fait son travail, le Parlement a légiféré, le gouvernement avait proposé cette loi, le chef de l'État l'a promulguée. Maintenant, il revient à ceux-là qui seront censés de pouvoir l'appliquer, de faire leur travail pourvu que la population trouve son compte. Merci beaucoup, Maître Sombril. Cyril, vous êtes dans le Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à Julie. Bonjour à l'invité. Salut au président de la République. JR, je suis parmi les observateurs qui analysent sur le sens positif et qui laissent cette loi promulguer avec sérieux. JR, vous savez, nous avons l'impression dans toutes nos interventions une culture des contestations sur cette loi et la philosophie du non dans nos analyses. Je ne vois pas une loi qui est promulguée en faveur de la population pour améliorer notre condition de vie, nous, les Congolais. Sera jugée aujourd'hui non recevable par nous-mêmes, les Congolais. Est-ce que cette loi est promulguée à l'intention du gouvernement? Est-ce que cette loi est promulguée à l'intention de la majorité de l'opposition à la société civile? Mais c'est pour nous, les Congolais, dans notre faveur. Vous savez, hein, les gens parlent des décisions restent. Ceux qui ont proposé cette loi aujourd'hui, demain, ils ne seront pas. Nous espérons peut-être. Mais écoutez, mais ça restera pour... Après, je ne sais pas. Ça restera au bénéfice de qui? Hier, la question des innovations reste une stratégie interne aux sociétés d'hydrocarbures et pétroliers. Je ne vois pas, on est en train de... Je ne sais pas, s'éterniser sur cette question-là. Qu'on nous dise les innovations apportées. Pendant que cette loi est à promulguer, mais cela simplement maintenant reste en sorte que ces gens-là qui vont le mettre en application puissent s'asseoir maintenant pour organiser le sérieux dans cette affaire-là. Hier, moi je pense que à nous de souhaiter cette loi la bienvenue.
Alors est-ce que vous ne mettez pas quelques inquiétudes, Cyril?
Demander à tout le peuple congolais.
Oui, Cyril.
Aujourd'hui là. parce que nous sommes tous en conséquence interpellés, de pouvoir s'impliquer pour améliorer notre condition de vie dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs délicats.
Cyril, parce qu'il y a une inquiétude quand même. C'est vrai, les débats aujourd'hui tournent autour des inquiétudes de certains observateurs qui estiment que, en affirmant la propriété de l'État sur les hydrocarbures du sous-sol, cela pourrait décourager certains investissements. Est-ce que vous y pensez comme ça?
Non, décourager, non. Mais en fait, comment est-ce que ils ne sont pas allés encore contacter ces investisseurs-là qui doivent venir demain ici? Ils commencent déjà à prendre la parole au nom de ces investisseurs qui arrivent de leur décourager hier. Non, non, non. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Moi, je pense que ça ne va pas décourager les investisseurs. Les investisseurs, c'est quand même aussi la loi avant d'être promulguée. Je pense que des experts qui se sont attelés sur cette loi-là et qui ont milité en faveur que cette loi-là soit aujourd'hui promulguée. Ils savent de quoi ils se sont rendus compte. Mmh. Je crois qu'ils ont déjà pris au préalable de contact, ou bien, en fait, ils ont créé même un cadre de concertation permanent avec les investisseurs. Moi, je ne trouve pas qu'à nous de pouvoir faire cette analyse parce que, je me réserve un peu beaucoup.
Merci beaucoup, merci. Alors, on comprend bien.
Ils ont encouragé cette loi et
tout à fait. Merci beaucoup. C'est ça le débat citoyen. Vous avez votre point de vue. Félicien a aussi le sien. Donc, voilà. Donc, et puis, on va tourner pour recueillir les points de vue des uns des autres. Félicien, vous êtes à Kinshasa. On va terminer cette première série avec vous. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour. Moi, je dis que c'est une bonne nouvelle que la loi soit promulguée. Et si on peut faire diligence pour que les opérateurs économiques viennent déjà, qu'on leur propose des contrats gagnant-gagnant pour l'intérêt de la République, parce que ça pourra résorber le chômage, mais qu'on leur donne aussi les conditions pour qu'ils ne viennent pas nous exploiter comme on nous a toujours exploité, des contrats lyonnais. Et les gens qui travaillent dans ces entreprises sont mal payés, sont mal lotis, sans avantage. Mais si ça peut vraiment servir pour que nous puissions gagner, c'est une bonne chose. Et nous avons déjà les problèmes avec le gaz et là qui aussi menace de nous tuer. Et les autres ont déjà commencé à exploiter tout autour de nous, dans nos frontières. Ils exploitent déjà, ils gagnent déjà, ça aide leur budget à aller jusqu'à 70 milliards de dollars. Et nous sommes encore au niveau des lois et nous devons faire vite pour que nous puissions réussir. Tant à ce qu'on dit pourquoi l'État, ça doit appartenir à l'État, moi je vois pas à qui d'autre ça devrait appartenir. On ne peut pas prendre les sous-sols et les donner au privé. Les privés doivent négocier avec l'État et c'est l'État qui représente toute la population. Nous sommes un pays organisé et structuré. Et nous ne sommes pas une gêne pour que chacun prenne une partie du sol pour lui. Donc moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, et n'est que non politique en face quelque chose d'intérêt général et non pas comme nous vivons partout ailleurs au Katanga, partout où il y a les minéraux. Et ça profite qu'à ceux qui sont au pouvoir, ce qui n'est pas bon. Il y a des grands nombres dans la souffrance totale.
Alors, vous ne craignez pas comme les autres Vénitiens qui estiment que donnant comme condition les contacts locaux pour au fait investir dans les secteurs, cela pourrait favoriser la tricherie, la corruption et tant d'autres mots. Alors, parce que c'est que certains ont remarqué dans les secteurs de l'économie, par exemple, avec les investissements chinois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de boutiques chinois ou encore des magasins qui portent des noms des Congolais. Donc, c'est des local contacts. Voilà, les gens en profitent. Il y a des opportunités qui en profitent. Est-ce que vous n'avez pas la même crainte?
Merci, mais cette crainte-là, ça ne va pas partir tant que nous serons dans ce système de corruption, des antivaleurs. Donc, nous pouvons sortir de là et que quand nous allons combattre les antivaleurs, mais aujourd'hui, nous sommes obligés de faire avec parce que il n'y a pas la volonté politique pour combattre les antivaleurs, mais nous sommes obligés de vivre. Et nous vivons avec ça, mais au fur et à mesure, les gens prennent conscience qu'un jour, nous sortirons de cette situation.
Merci beaucoup, Félicia. 081-890-60 315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Émérine Mbatshi-Bopé, en tant que vice-président du groupement national des sociétés pétrolières privées. Vous venez là de suivre la première série des auditeurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes et puis il y a quand même des propositions. Hein, des gens qui ont fait des propositions très 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 pertinentes par rapport à la suite. Il faudrait penser déjà à l'application de cette loi parce que, bon, en fait, l'expérience du passé fait encore redouter beaucoup des choses. Quant à la non-application de cette loi, ça pourrait quand même laisser encore libre cours à tous ces investisseurs de vivre dans la jungle et à faire comme bon leur semblerait. Alors, comment réagissez-vous par rapport à toute cette réaction?
Bon, merci beaucoup, Monsieur J.R. Je suis très content de voir que le secteur des hydrocarbures intéresse les Congolais. Je suis totalement satisfait des interventions des uns des autres. Je suis flatté et ému de voir que certains s'intéressent de l'un ou de près dans ce secteur, de ce secteur. Et je pense que c'est de ce débat comme ça et que l'on peut retenir ce qui est bien, puisque c'est à l'intérêt de notre peuple, à l'intérêt de la nation. Je remercie M. Franck qui a plaidé l'Europe de l'étranger. Je remercie aussi Séville, Maître Séville, Cyril et Félicien. Mais je veux dire ici que ayons nos apaisements. On vient de promulguer à peine cette loi. Je crois qu'il faut laisser le temps. Voici certaines réponses que je peux donner à ce niveau du débat. Il y aura les mesures d'application. C'est-à-dire, la loi est là. Je sais que l'utilisateur des hydrocarbures et l'administration des hydrocarbures, c'est pour dire, est en train de faire un travail qui va soumettre. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire du ministre, ce n'est pas l'affaire de l'administration. Il y aura la société civile qui sera contactée. Nous-mêmes, moi, je pense que en tant que le privé, nous serons aussi consultés. Dans cette mesure d'application, on va voir comment appliquer les codes des hydrocarbures dans la profession, d'une manière générale, amont et aval. J'aimerais dire à nos fidèles auditeurs que on n'a pas de crainte. Le législateur a tenu compte de tous les aspects. Je vous dis, dans les innovations, il y a même un fonds qui est déjà préparé et que ce fonds, c'est pour les générations futures. Il y a un problème que les gens peut-être n'ont pas encore compris. Les documents viennent d'être promulgués. Laissez le temps. Ceux qui ont travaillé sur ces documents, dans sa conception, dans la, ils ont tenu compte de tous les éléments. Je dis bien de tout. Prenez aussi le temps de lire les documents. Lisez la loi. Et après, posez des questions. L'impression que ça donne. L'impression que ça donne. Je prends le cas de celui du maître qui a appelé de Lubumbashi, je crois.
Maître Sandy.
Oui. Il a voulu peut-être exprimer autre chose que de parler de la loi des hydrocarbures. Mais j'ai compris son souci. C'est pour que cela se passe de la meilleure façon. Retenez aussi qu'on ne parlera plus de permis. Il n'y aura plus de permis d'exploitation ou de permis d'exploration. Il y aura des contrats. Quand on parle de contrats, ça veut dire que les contrats, ici, supposent la loi des parties.
Mmh.
Lorsque un investisseur étranger arrive, oublions, s'il y a ceux qui n'ont pas bien fait, mais faisons confiance à notre gouvernement, faisons confiance à ceux qui nous dirigent. Ils partiront peut-être, ils laisseront.
Non, mais HHD crée même l'eau froide. Parce que ce qui s'est passé dans le secteur minier, il y avait des contrats.
Oui.
À un certain moment, on a parlé de la révision des contrats.
Oui.
Finalement, il fallait.
Lorsque...
Tout ça, c'était de l'imbroglio.
Non, non. On peut parler de révision des contrats lorsqu'il n'y a pas respect des principes, par exemple.
Par les parties.
Ou par les parties.
Mm-hmm.
On peut dire non, parce que la disposition des révisions, la disposition même des révisions, des revoirs,
ou des contrats, tout ça.
Des négociés, c'est défini dans les textes.
Lorsque on parle des contrats, les contrats supposent que les deux parties se mettent d'accord, qu'on se les dise. Et dans ces contrats, on suppose aussi que l'État congolais n'a pas négligé d'abord la population, d'abord n'a pas négligé des sociétés nationales,
investisseurs, tout ça,
des sociétés nationales. Mmh. Mais il faut aussi que nous ayons la compétence. C'est pourquoi il y a un accent qui est mis sur la formation. Donc il faut déjà que les privés ou les nationaux commencent à se préparer. Vous n'allez pas dire que non, il y a corruption, ou on n'a pas tenu compte de telle entreprise qui est dans le PME, ou qui
alors,
n'a pas
gagné. Quelle est alors la part de la population dans ces deux. En fait, la part de la population, c'est pas le renforcement de l'autorité de l'État.
Oui.
Donc là, oui, c'est vrai. En fait, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils cherchent à décrire même le poids. Quand on parle de l'autorité de l'État, les gens croient que c'est des gens, c'est seulement les autorités de ces pays qui vont en profiter. Mais quelle est la part de la population? Qu'est-ce que dit la loi concrètement sur cela? Parce que nous avons vu, pour ne pas citer certaines sociétés qui ont investi, hein, qui ont investi dans le pays. Je prends le cas des gens de Bakongo, que nous recevons d'ailleurs, Ernest Kamatadi va en parler tout à l'heure, le cas des entreprises qui ont investi dans le Bakongo, qui n'ont pas, en tout cas, quasiment respecté les contrats qui ont été signés avec le gouvernement congolais, tant à la, pour l'intérêt de la population.
Je ne vois pas le gouvernement qui signe un contrat avec un investisseur étranger et qui a le principe défini dans le contrat et la partie qui a investi qui ne respecte pas. Et
alors on va écouter. On peut écouter Ernest qui est à Matadi, qui peut peut-être nous donner d'autres témoignages et puis on va revenir à vous. Alors Ernest, vous êtes à Matadi. Ernest, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Bon, parce que vous êtes dans le Congo central, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises pétrolières qui se sont succédées dans l'exploitation à Moanda. Aujourd'hui, c'est avec un contrat qui devait aller dans les sens au bénéfice de la population. Nous avons fait toute une série d'émissions par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la population, par rapport à l'exploitation pétrolière dans le Bas-Congo, la population se retrouve?
Merci beaucoup pour m'associer à ce débat d'aujourd'hui. Nous avons aimé ce que l'invité est en train de nous raconter sur la littérature liée à l'organisation, comment exploiter, comment faire le travail. Mais c'est un problème d'homme dans tout ça. On peut avoir les textes les plus parfaits, mais c'est un problème d'homme. Ces hommes qu'on met devant pour négocier, signer ces contrats, c'est là où il y a les problèmes. Ce sont ces hommes qui négocient en défaveur de la population. Par exemple, à ce niveau-là, ils exigent des opérations de retour. Parfois, ils n'ont rien. Il n'a simplement que la représentation de la nation congolaise à représenter.
Oui, oui, les tableaux pas sur les factures, parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves qu'il y a l'opération en retour. Mais,
bon, la radio
qui, reçoit dans ce pays très moi je vous le conseille, mais allons droit au but. À Matadi, par exemple. Oui, à Matadi, Rwanda. Oui, tout à fait.
Au niveau du Bas-Congo, dans le Congo central aujourd'hui, et nous prenons particulièrement la cité côté de Mwanda. Et vous savez ce qui se passe dans cette cité-là. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial qui prouve qu'ils sont dans une cité où le pétrole est exploité et dont les bénéfices tombent rapidement sur la population de Mwanda. Mais il n'y a rien du tout.
Il y a la route qui a été construite pour aller vers Surestrom, qui exploite d'ailleurs le pétrole de Mwanda. Il y a deux écoles qui ont été construites avec l'accompagnement de la communauté des bases. Nous avons ces informations, Ernest.
Je vous assure,
il y a l'électricité aujourd'hui.
Ce n'est pas toutes les personnes qui se trouvent dans une école. Dans une école, si vous n'avez pas d'enfant, comment vous allez dans cette école?
Et selon nos informations, nous n'avons pas encore vérifié les stades qui sont en train d'être construits. Il y a une part de ce résultat dans le financement de ce projet.
Ne voyons pas des petits paragraphes dans la vie des individus. Voyons la vie dans l'ensemble. Les gens des Mwanda, est-ce qu'ils ont des spécialités à part l'école? Est-ce qu'ils pour vivre sont dans une école? Est-ce que pour vivre seulement ils font une route seulement? Non, la vie dans son ensemble, dans sa totalité. C'est ce qui manque dans cette cité, et nous, dans la province ici, on ne sent pas l'impact réel de cette pétrole que nous avons. On peut dire tout ce qu'on peut dire sur le pétrole que nous avons ici, mais on ne sent pas cela. La route de qui va vers Mwanda, du moment à Mwanda, dans quel état il est, hein? Les hôpitaux, dans quel état ces gens sont soignés, hein? C'est ce qui frappe la population directement. Donc je crois que c'est un problème d'homme, c'est pas un problème de texte. Depuis tout le temps que ce pays existe, nous avons connu des autres entreprises qui exploitent le pétrole dans ce pays, mais c'est un problème d'hommes jusqu'à ce jour aussi. C'est pas un problème de texte. Le texte qu'on a trouvé, ce n'est pas le pétrole. Le pétrole va passer. Ce mouvement passera. Mais la nation restera. ceux qui viennent de très loin, qui viennent d'exploiter le pétrole, ils doivent sentir que nous avons affaire à des hommes qui respectent, qui aiment ce pays et qui aiment la population.
Alors, c'est pourquoi une autre opinion pense que l'État devrait aussi renforcer des sanctions en cas de non-observation des dispositions légales et contractuelles par les sociétés pétrolières.
Mais pourquoi je parle de promo d'hommes? C'est pas pour le texte. C'est pour l'homme. À l'Angola, ici, 40 ans dans la pleine indépendance, 1955 ans, comment ils ont appris à respecter ces choses? Parce qu'ils sont dynamiques. D'abord, la nation. Au-delà de tout, c'est la nation. Les individus, c'est pas ça. La raison, c'est la nation congolaise et la nation qui exploite. Pour que ces gens nous respectent. Ça, c'est là, c'est rien. C'est rien.
Merci beaucoup. Voilà, Éric Bacchi.
Je pense que. Je comprends pourquoi des fois nous sommes en train. Il y a des gens qui s'expriment, ils disent ce qu'ils pensent, c'est pas mal aussi, mais il faut voir ce qui est essentiel. Je ne sais pas, à chacun son travail. Quelle est la production que nous avons? Qu'est-ce que nous exploitons réellement? Quantifié à cela, avec aujourd'hui les cours de marché au niveau international. Vous vous rendez compte, c'est pas facile. Oui, la loi, elle est là. C'est que dans tout ça, il nous manquait des textes, il nous manquait des documents de base, le support de travail. Maintenant que le support est là, moi, je crois que donnons les
temps,
utilisons ce support, mettons en place les règlements, les mesures d'application seront là. Que chacun fasse son travail. J'ai dit, les hommes, oui, vous avez même posé une bonne question, est-ce que vous avez des preuves? Il parle de la radio trottoir. Est-ce que nous pouvons nous fier pour un grand pays à la radio trottoir? Moi, je crois que non. Élevons les deux. Restons un peu haut, hein, mais ne descendons pas trop bas. Je sais que le texte est là. Le texte résout beaucoup de problèmes. Ça veut dire, au moment où il y a ce que les gens pensent, nous allons nous référer. Il faut qu'eux aussi, ça devient propriété du peuple. C'est nous tous. Si moi, je pense, si j'estime que Perenco ou Sirefi ou tous ceux qui ont les blocs ou qui sont en phase de production et qui n'ont pas ces documents, nous devons les lire. Chacun doit acheter, chacun doit lire. S'il y a une disposition qui n'a pas été respectée, ce n'est plus.
Donc le ministère a l'obligation de vulgariser
et
de sensibiliser la population par rapport à ça.
Et puis, je voulais dire ceci. Il n'y aura plus de marché de gré à gré. Parce que le marché de gré à gré, où peut-être on dit, il y a des gens qui ont été peut-être corrompus ou quoi que ce soit, il y aura des appels d'offres. Ça, ce sont les innovations. Quand il y a appel d'offres, ce n'est pas un secret. On lance les appels d'offres, il y a des sociétés qui vont
se mettre sans complaisance. Voilà.
Et nous, les privés nationaux, nous devons déjà nous préparer pour que, à chaque niveau dans la chaîne de la production, que nous puissions nous positionner. Et vous avez dit quel est l'impact sur la population. Et voilà, mais là, si moi, avec ma société Soliscom, si je suis intermédiaire, à compétence égale avec, comme les autres, par exemple, s'il y a une société qui perforait, et que moi, j'ai des ingénieurs capables de faire le travail qu'une société belge, ou française, ou allemande, ou turque peut faire, on va privilégier ma société. Ok ? À ce moment-là, qu'est-ce que je crée? Je crée réellement parce que l'investissement, au jour d'aujourd'hui, c'est pour créer les richesses. Si je suis, moi, avec ma société, bénéficiaire dans le cadre de Local Contact, et j'interviens sur une chaîne, je vais engager des Congolais. Ces ingénieurs-là sont des Congolais. Ils ont des femmes, ils ont des familles, ils ont des cousins. Mais
c'est ça déjà un impact.
Il y a un impact social. Et la population en tire bénéfice. Et l'État congolais a mis des garde-fous. Il a protégé le peuple dans les textes.
Alors je veux dire
que de sorte que le peuple trouve son compte, si ce n'est pas dans le travail, mais ça sera aussi dans le fond.
Alors je veux dire que vous puissiez nous faire une idée très claire. Quelles sont les obligations réelles, telles que définies dans ces textes, les obligations à l'égide des sociétés pétrolières au bénéfice des populations. Est-ce qu'il y a quelque part des dispositions sur des obligations des sociétés pétrolières comme contrat social?
Les obligations, c'est le respect. Il y a le respect d'abord de l'environnement aussi. Ça, c'est un élément qui est aussi mis.
Environnemental.
Oui, environnemental.
Il faut évaluer l'impact environnemental.
Il faut évaluer cet impact. Mmh. Et il y a un accent qui est mis là-dessus. Aucune entreprise. Les obligations ici, aucune entreprise ne peut venir faire toute la chaîne
de la production.
Recherche, exploration, exploitation, et non. Puis, bon,
distribution. Et les recherches, pour ce qui est des recherches, c'est l'État congolais qui doit faire la promotion. C'est l'État congolais qui va faire des contrats de service. Il y aura des contrats de service. Vous venez ? Bon, écoutez, nous avons la cuvette centrale. L'État congolais.
Le bloc 5 qui se relève beaucoup d'armes.
Il appelle.
Le bloc 5, par exemple.
Je vous promets, laisse-moi aller dans le fond du débat.
Oui.
On appelle une société qui vient faire que les services.
Oui.
Il fait les services, il met à la disposition des données, à la disposition de l'État, des données. Et avec ces données, on offre des appels d'offres.
Mmh.
Tout le monde, tout le monde qui a les moyens. Mais nous, à notre niveau, nous nous contentons de ces obligations-là qui disent qu'aucune entreprise ne peut travailler sur toute la chaîne sans tenir compte des nationaux que nous sommes. Et les richesses, ça va être créé. Et vous devez comprendre aussi, pour ce cas ici précis, la loi, elle est là. Les mesures d'application seront bientôt disponibles, mais soyons confiants. Soyons optimistes, ne reculons pas, parce que nous risquons de perdre le temps inutilement. Mettons-nous au travail, formons nos agents, envoyons des gens en formation. Ici, je suis content, je vois déjà des instituts supérieurs
de gaz et de pétrole
qui sont en train de se former. Envoyez les enfants, envoyez des jeunes gens travailler, maîtriser et avoir la compétence. Au moment opportun, l'État va voir. Oui, vous voulez prendre tel bloc. Oui, vous voulez. Et ok, il y a telle société qui a telle compétence. Nous devons vanter aussi ce que nous avons en compétence pour espérer participer et accompagner.
C'est quand même une grande innovation devant la propriété de recherche, voilà, l'État, parce que nous avons vu par le passé des entreprises qui s'éternisaient dans la recherche. Ils pouvaient prendre tout leur temps, 5, 10, voire même 20 ans. Dans la recherche, c'est l'État qui s'en occupe. Et les autres maillons de la chaîne, entre autres l'exploitation, l'exploration, ça c'est réservé maintenant aux investisseurs.
Oui.
Aux investisseurs. Et bien entendu, avec comme condition, avoir un contact local.
Voilà.
Local contact.
Dans la chaîne.
Oui.
On peut en avoir 2, 3, 4. Pendant que vous êtes spécialisé, c'est pas moi, dans tel domaine, c'est dans la chaîne de production, vous intervenez.
Ça, c'est déjà une première obligation, c'est très important. Alors maintenant, par rapport à la contrat social avec la population, les sociétés ont quel devoir ?
Bon,
construire des écoles, assister, financer quelques projets de développement.
Oh, bien sûr, j'ai parlé ici d'un fonds pour les générations futures. C'est un matelas, en fait. C'est de l'argent ou des moyens qu'on mettra.
La loi appelle ça comment ? Le fonds de ?
Le fonds pour un fonds en faveur des générations futures.
En faveur des générations ?
La création d'un fonds en faveur des générations futures. Générations plurielles.
Hein, qu'est-ce que ça veut dire ? On regarde de l'argent qui
va
pas, l'État va prendre de l'argent.
Ça veut dire, on se dit, le pétrole peut s'épuiser.
Oui.
Mais qu'est-ce que nous pouvons avoir pour que nos arrière-petits-fils se rendent compte qu'il y a eu une exploitation et que les moyens ou les fonds ou l'argent ou les recettes qui ont été réalisées puissent aussi bénéficier à ces enfants-là. Mais il faut aussi comprendre que l'État a mis aussi certains allégements. Par exemple, sur la fiscalité et le paiement.
Bon, on est bien que ce n'est pas de l'argent que l'État a utilisé à tout bout de champ.
Non,
pour
non,
chose.
Non, faites confiance à l'État. Et aujourd'hui, un investisseur, pour ne pas les décourager comme vous avez semblé le présenter, qui va exploiter un tourisme, il aura de certaines facilités par rapport à celui qui exploite sur le bassin côtier, par exemple.
Mmh. Oui.
Donc, celui-là, il a la facilité. Il peut accéder au bloc facilement, mais celui qui va dans il va avoir certaines facilités pour le stimuler à aller. OK ? Sur certains, donc, l'État a prévu dans la loi les dispositions qui puissent favoriser ou permettre à tous ces investisseurs
de se sentir
déployés au travers de la République, voilà. De ne pas négliger
parce qu'on n'est pas allé se contenter
voilà.
Quelque part où voilà. Les gens vont se tirer voilà. Pour les blocs 5
non.
Là non. Où il y a le parc voilà, donc les gens vont se tirer dessus par rapport à
et tout voilà. Ça ce sont des innovations et des améliorations de la loi qui favorisent maintenant
l'investissement
ce secteur des hydrocarbures soit un secteur réellement orienté vers le développement réel de notre pays. Aujourd'hui, il faut croire à ce texte qui est là. Bien sûr, il tombe à un moment qui n'est pas en retard,
mais bon, il est plus retard que jamais.
Quand vous regardez le cours de marché sur le plan international, c'est la chute. Mais c'est un texte, un document important qui résout. Ça fait, je parlais ici depuis 2002, que on a séparé, les mines et les hydrocarbures. Les mines ont retrouvé leur cours de lumière. Ils sont en train de travailler normalement en se basant sur les textes qui régissent ces secteurs-là, mais les hydrocarbures restaient comme ça. Alors, maintenant qu'on vient de les corriger, donnons le temps au temps. Laissons l'évolution normale, laissons l'autorité résoudre le problème des mesures d'application, et c'est notre affaire tous. Ne soyons pas spectateurs, soyons acteurs.
On va prendre Joséphine qui est à Boston aux États-Unis. Me semble-t-il, aux États-Unis, ils ont déjà les stocks de pétrole depuis de un siècle. Voilà, cela. De Manima et puis Olivier de Kikwit. On va vous accorder la parole dans un instant. Gardez la ligne.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Joséphine qui est à Boston aux États-Unis. Joséphine, bonjour.
Bonjour Radio Capi, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je vais dire ceci, comme j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu de retard pour faire le bien.
Voilà.
Je suis très contente que cette loi vienne d'être promulguée, mais j'ai une inquiétude, parce que... l'invité vient de dire, il n'y a même pas deux minutes, que c'est maintenant qu'il faut que la population peut envoyer les enfants pour étudier le problème de pétrole, le cadeau et tout. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment regrettable. Ça, c'est vraiment regrettable. Parce que quand on promulgue une loi, donc, c'est une étude qui a déjà été faite, c'est ça la fin, c'est la signature seulement pour promulguer. Donc, ils n'ont même pas encore des enfants, des gens qui sont déjà, qui ont déjà étudié pour déjà entrer dans le marché. Vous voyez ce que j'ai toujours dit, M. J.R. Vous voyez ce que j'ai toujours dit pour le Congo. Donc, on met la charrue devant le jeu.
Oui, mais Madame Joséphine, vous avez été au Congo. Je crois que vous avez quand même une idée sur les filières qui sont organisées à l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi, pour ne pas citer les cas de faculté des sciences. Vous y allez, vous trouverez les géologues, vous trouverez les gens qui sont spécialisés dans le gaz et pétrole. Moi, je connais des professeurs au Kinangenda qui appellent le gaz et pétrole. Et c'est parmi les spécialistes qui forment des étudiants depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a ces booms-là d'institutions privées à travers le pays, bon, qui, en fait, emboîtent les pas aux universités traditionnelles, notamment l'université de Kinshasa, Lubumbashi, pourquoi pas Kisangani, et qui ont déjà organisé ce genre de filières bien avant. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas autant d'engouement comme aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est comme si les gens se réveillent de leur sommeil pour dire, mais voilà, il y a aussi un secteur qui doit nous intéresser dans les jours à venir. Et voilà, donc c'est pourquoi il y a cet engouement, Madame Joséphine.
Ok, je comprends tout ça. Moi, mon inquiétude est au niveau de dire ceci. Dans le temps, on avait Pétrozaïre.
Mm-hmm.
On avait Pétrozaïre. Alors, quand on a chassé le président Mobutu, on savait dans quel état le Zaïre était pour revenir au Congo. Donc, c'était comme... Moi, j'ai toujours... Où est la mallette, là où il y avait la mallette préparée pour réparer le Congo? En tout cas, de 96 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait au moins 21 ans, si je ne me trompe pas.
Mm-hmm.
De 96 jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 21 ans. De 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 14 ans. Il fallait qu'il y ait... Où est l'entrée? Le monsieur peut nous dire, nous donner l'entreprise qui l'entreprise, comment on dit, l'entreprise qui représente tout ça.
L'État.
Comme par exemple le au niveau des mines, il y avait la Gécamines. On pouvait voir la Gécamines faisait ça. La Gécamines d'ailleurs est par terre, même si on avait promulgué une loi minière. Ok. Moi, ce que je suis en train de dire, j'aime le chiffre, hein, au lieu de, comme vous l'avez demandé, qu'est-ce que la population va gagner, qui nous donne le manque à gagner au niveau du lac Albert, qui nous donne le manque à gagner au niveau de Mwanda.
Mwanda.
Qui nous donne le manque à gagner, même dans le parc, là où on va faire le pétrole. Qu'on nous donne les chiffres, c'est que le manque à gagner qu'il y a. Moi, je sais que quand vous signez, vous promulguez une loi, vous devez être prêt. C'est comme la femme est enceinte, le mari doit se préparer pour la maternité, il doit se préparer, tout doit être fait prêt. Vous avez parlé des États-Unis, de ce JR. Dernièrement, il y a deux ans qu'on a trouvé le pétrole à North Dakota. Mais il fallait être ici. Tout le monde, il y avait des gens qui quittaient même leur boulot pour aller dans la ville là. Le salaire là où on paye dans d'autres villes, $10, là-bas on payait $25 par heure. Donc vous voyez, le monsieur qui a appelé de Matadi, ou des moindres, là. Il a dit la population, on doit voir la population, on doit voir la population comment elle est contente. La population congolaise doit profiter de ces hydrocarbures, de ces mines. Que ça ne soit pas seulement de on a signé. On a combien de lois au Congo?
Merci beaucoup.
De lois au Congo?
Merci beaucoup, madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston. Vous avez parlé de Petrozaïr, qui est devenu par la suite Co-Hydro. Alors aujourd'hui, c'est vrai, bon, il y a beaucoup de choses qui doivent être développées, analysées autour du fonctionnement des Co-Hydro. C'est vrai, même à Kinshasa, on ne sent pas cette visibilité des opérations de cette société. C'est vrai, bon, c'est notre invité est mieux placé pour nous dire, ben voilà, est-ce qu'au niveau de cette propriété de l'État, l'État pourrait renforcer aussi les opérations du côté Co-Hydro pour que finalement la population puisse avoir quand même gain des causes. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'État qui doit fixer le prix, mais si l'État n'a pas de société qui peuvent aussi vendre ces produits, c'est pratiquement difficile pour la population trouver son compte. Voilà, 081-890-6315 pour votre intervention. Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échange citoyens. Cela, vous êtes au Maniema, Olivier Kikwit et puis Claude à Kinshasa, mais je reviens d'abord à vous. Monsieur Emery Mbati Bopé, vice-président du groupement national des sociétés pétrolières privées. Vous avez suivi la deuxième série, avant le bulletin d'information, la deuxième série des auditeurs qui intervenaient dans cette émission par rapport à cette thématique sur la promulgation de la loi portant régime des hydrocarbures en RDC. Aujourd'hui, on peut dire que les divorces est consommé entre les mines et les hydrocarbures qui dépendaient par le passé d'un seul code. Voilà.
Ouais, bon, en fait, c'est depuis 2002 que ce divorce a été amorcé. Mm-hmm. Bon, de toute façon, je remercie Mama Joséphine qui porte le nom de ma défunte maman. Bon, je comprends sa crainte et sa préoccupation, mais heureusement que vous l'avez ramené sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce que la loi est promulguée, envoyer les enfants aux études. Non. En fait, il y a toujours ces formations qui sont là, il y a des facultés qui existent depuis des années. Mais maintenant, puisque il y a un mouvement, il y a les secteurs qui promettent, il y a un intérêt, il faut maintenant beaucoup plus orienter les enfants de la même manière qu'on oriente les enfants en économie, en droit, on peut aussi les orienter. Pourquoi pas en forage, en explos, production, ou pourquoi pas dans l'économie pétrolière. Je sais qu'elle a parlé de Petrozaïr, mais Petrozaïr, c'est une société de l'État qui a fait, qui garde d'ailleurs l'image, on garde toujours l'image de Petrozaïr. D'ailleurs, même quand on a créé les sociétés privées, toutes ces sociétés travaillaient via Petrozaïr.
donc l'approvisionnement, et on intervenait dans la distribution pour ramener les produits vers le Congo profond, les Zaïre à l'époque. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a Cohydro, qui est une grande société qui a de l'avenir. Mais peut-être qu'il y a un problème, c'est le problème des moyens. Bon, dans les innovations contenues dans les codes, il y a la création d'une société nationale des hydrocarbures. Il y a des possibilités. Okay, moi, je soutiendrai la possibilité.
On va dissoudre Cohydro.
Non, je soutiendrai la possibilité de renforcer
la Cohydro.
Renforcer la Cohydro en mettant à la disposition de la Cohydro qui a l'expertise, la compétence, l'expérience, en mettant à disposition des Cohydro des moyens. Des moyens, parce que Cohydro s'est mis déjà à...
Oui.
Alors, maintenant, Cohydro a les moyens, avec la compétence et avec la volonté de la direction aujourd'hui, qui aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une dame qui fait preuve. Dans les temps, on nous voyait les stations fermées, mais aujourd'hui, quand vous passez,
on trouve
la station de Cohydro. Bravo à cette dame.
Hein?
Donc, pour dire que on peut renforcer Cohydro en mettant
la loi prévoit déjà la création.
Nous risquons de tomber. Non. C'est dans la mesure d'application. De toute façon, la loi, elle est là.
Oui, les mesures d'application.
Le principe de la loi reste, puisqu'elle a été promulguée. La loi est promulguée, mais dans le mesure d'application. Si on constate que il faut au lieu
de renforcer
Cohydro, le mesure d'application seront partie intégrante de la loi. Parce que ça ne va pas sortir de la loi. Alors, s'il faut renforcer Cohydro en donnant les moyens, parce que Cohydro existe déjà. Plus que Cohydro existe, et que Cohydro peut-être n'a qu'un problème de moyens. En mettant le moyen, Cohydro devient la société nationale des hydrocarbures. Et c'est cette société qui va maintenant jouer le rôle aussi importante dans la définition même de la politique pétrolière, et il y aura le contrat de partage de production qui va être là, mais c'est Cohydro qui représente l'État par exemple, et c'est le win-win. Il n'y a plus de brouillard là-dessus. Et quand la dame parlait de manque à gagner, on ne peut pas parler de manque à gagner. La production, elle est connue. La production, elle est...
Elle voulait plutôt parler de l'impact que cela a au niveau de la population.
Mais non, elle vit à votre temps. Je comprends la difficulté qu'elle a. Et moi, par exemple, vous et moi,
nous vivons
la réalité. Quand vous allez à Mwanda, vous avez cité quelques cas ici. Avec cette production, avec les cours de marché international, vous avez parlé des hôpitaux,
des écoles, des
routes. Il y a toujours une part qui est réservée. D'ailleurs, ce n'est pas une fiction, mais c'est défini dans leur plan de gestion pour dire quelle est la part qui est réservée à la population locale. Et cela est surveillé parce qu'il y a même les communautés locales qui surveillent l'utilisation des fonds. Et il y a toujours des justifications. On sait entrer dans l'air libre et vérifier. Donc, sur ce point-là,
il nous reste 7 minutes.
Battons-nous pour qu'il y ait une promotion.
À votre conclusion, je vous demanderai de garder ça, monsieur Eric. Il est temps peut-être de prendre Sola, Olivier et Claude, qui nous ont rejoints. Les trois derniers auditeurs qui vont intervenir dans cette émission, parce que dans quelques minutes, on va conclure. Voilà, Sola, vous êtes au Maniema. Bonjour. Voilà, Sola, vous êtes avec nous? Sola? Voilà, on prend plutôt Olivier qui est à Kikwit d'abord. Olivier?
Oui, je suis là.
Vous avez la parole, Olivier.
Oh, voilà. Mais avant de dire ce que j'ai à dire hier, j'aimerais d'abord poser une question à l'invité. Par rapport à la loi Bakajika, quelles sont les nouveautés que cette nouvelle loi apporte sur la pauvreté de l'État? Ça, c'est la première chose que j'aimerais savoir avant de continuer, si c'est possible, qu'il me donne la réponse immédiatement.
Oui, bon, on avait déjà parlé, mais on peut quand même revenir, parce que vous avez pris en cours d'émission, mais je vais rimbacher rapidement.
Mais non, le, par rapport à cette loi qui est Bakajika, nous avons dit tout simplement que l'État reste propriétaire des hydrocarbures jusqu'au chargement de la cargaison au quai ou encore au terminal pour être exporté. Ça, c'est une innovation. Donc, si nous constatons qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, l'État reste propriétaire. Donc, ça, c'est une innovation.
Voilà, Olivier, merci. Alors, vous pouvez poursuivre rapidement parce qu'on n'avait qu'une minute.
Ok, merci. Mais j'aimerais quand même savoir que, j'aimerais quand même qu'on dise que, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à trop parler dans cette loi. Je pense, deux petits exemples. On crée un fonds en faveur des générations futures. L'idée est bonne. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, tout Congolais va se poser des questions. Les générations actuelles ne sont pas prises en charge et ce sont les générations futures qui seront prises en charge. Enfin, on ne fait pas de débat là-dessus, mais l'idée est très bonne. La deuxième chose qui me pousse à parler, c'est cette création d'une nouvelle société des hydrocarbures. C'est une phrase qui ne devait pas exister parce que, dans les mesures d'application qu'on vient de le dire, on pourrait tout simplement corriger le Coïdro. On corrige Coïdro et puis c'est tout.
Mais c'est ce qu'a dit notre invité tout à l'heure.
Allô?
Oui, c'est ce qu'a dit notre invité tout à l'heure.
Oui, mais le fait qu'on mette ça déjà dans la loi, ça signifie que même ceux qui ont voté la loi n'ont pas compris qu'il y avait déjà, une position à cette question-là. Alors, je crois que nous devons aussi rappeler que, depuis quelques temps, enfin il y a quelques temps, la RDC produisait déjà 10 barils, avec 10 millions de barils de brut. Alors, dire que cette loi vient combler un vide qui retardait la mise en valeur des hydrocarbures, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les hydrocarbures, nous en avons depuis longtemps, et l'État avait le pouvoir de les exploiter, il n'y a jamais. Il y a eu des sociétés étrangères qui sont venues, mais qui ont exploité à notre secteur, mais il suffit seulement que l'État se mette dans le bain.
Merci beaucoup, Olivier. Alors, on va prendre Claude qui est à Kinshasa, on va terminer avec lui. Claude, bonjour.
Bonjour.
Rapidement, vous avez une minute.
Vraiment, je pense que c'est le dernier. Bon, j'ai ma préoccupation sur celle-ci. J'ai lu la loi, il y a un article qui dit que les hydrocarbures produits sont propriété de l'État jusqu'au fin d'exportation. D'ailleurs, l'invité vient de le répéter. Je ne comprends pas cela. Comment un contrat de partage de production l'État a sa part et l'investisseur a aussi sa part et la part de l'État et la part de l'investisseur devient propriété de l'État jusqu'au point d'exportation.
Bon,
et si supposé que l'investisseur veut raffiner son pétrole ici, mais quel sera l'État à ce moment-là? Je n'ai pas compris cette disposition. Est-ce que l'invité a des éléments de réponse?
Merci beaucoup, Claude, d'avoir appelé. Alors, Émeric Mbaki, je crois qu'avec ça et l'intervention de Olivier Dekipit, on pourrait peut-être terminer et conclure cette émission.
Bon, je comprends que nous n'avons plus de temps.
Il reste deux minutes.
Claude, je dis à Olivier que je continue à dire qu'il faut avoir nos apaisements. Donc, la loi, elle est là. Je crois que laissons le temps, peut-être voir comment est-ce que ça va aller. Ne soyons pas pessimistes. Bon, quant à M. Claude, il doit comprendre que il y aura plus de permis, comme j'avais dit tantôt, il y aura les contrats. Dans les contrats, on va définir les dispositions. Même si c'est un principe, quand on dit et ça reste la propriété de l'État, c'est tout simplement pour sans doute garantie. C'est pour que l'État que rien ne puisse échapper. Bon, si nous n'avons pas de raffinerie, moi je pense qu'il y aura, on va encourager d'avoir de ne pas exporter le brut comme on fait dans le secteur minier et qu'on peut demander à ces investisseurs de penser aussi à traiter notre brut. Ça nous permet de prendre les sous-produits. Mais s'il y a une possibilité d'exporter et que tout le brut passe, l'État sait que dans ces lots, il y a par exemple telle quantité qui appartient à l'État. On peut les raffiner, que ce soit à la Sogara, que ce soit à la Cire, que ce soit, par exemple, je ne sais pas où, mais avec la possibilité de récupérer la production. C'est-à-dire, il y aura le produit blanc. L'État ne va pas prendre son brut pour commencer à les vendre dans les stations. L'État doit raffiner, doit traiter ces bruts-là pour récupérer en retour le produit blanc qui sera utilisé par les consommateurs. Donc, il y a toujours des dispositions qu'on peut prendre. Donc, il ne faut pas
croire que non. Quand on produit, on met de côté, ça c'est pour l'État et ça c'est pour les récipients. Moi, je crois qu'il doit quand même comprendre que c'est à un niveau de disposition réglementaire.
Voilà,
et pas des réservoirs où le chat là-bas est
dans le parc. Émilie Mathy-Bopé, un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu dans ce studio des paroles aux auditeurs. Je vous remercie pour le rendez-vous avec vous très prochainement. D'ailleurs, nous resterons toujours dans la même ligne donc, de dossier des interviews. Demain, on parlera d'ailleurs des opérations de dégazage du lac Kivu. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Julie qui a réalisé ce programme à mise en onde par Paul Badayama, un programme qui vous a été coordonné présenté par Jérôme Gembo sous la supervision de Léonard Moulamba. À très bientôt.